troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la péninsule indochinoise et plus particulièrement du Cambodge. Aujourd'hui, une émission d'archives autour de la figure de Norodom Sihanouk qui gouverna longtemps ce pays après l'indépendance. Après avoir évoqué lundi avec Christopher Gaucha les tensions entre Vietnam, Cambodge et Laos pendant la période coloniale mais également après, puis hier raconté dans le terrible documentaire d'Alain Lefkovitch et Séverine Cassard le huis clos de l'ambassade de France à Phnom Penh lors de l'arrivée des Khmer Rouges dans cette ville, nous allons ce mercredi vous raconter la vie d'un souverain qui l'a écrite et parfois rêvé, sa vie, Norodom Sihanouk, le petit roi mis sur le trône en pleine Seconde Guerre mondiale, devenu prince supposément démocrate mais au caractère bien trempé et parfois autoritaire, qui fascina la France par sa culture et son humour, au point que les archives de l'INA sont pleines de ses interventions. Elles ont été choisies, justement, les archives d'aujourd'hui pour la Fabrique de l'Histoire par Séverine Yatar et Séverine Cassard. Elles seront commentées par nos deux invités. Hugues Tertrais, il est historien, professeur émérite à Paris 1 Sorbonne, fondateur du Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine. Et Alain Forest, il est professeur émérite à Paris 7 Diderot et spécialiste de ce pays, le Cambodge.
Le pouvoir, pour moi, c'est un sport, parce que j'ai toujours pratiqué le sport, je continue à le pratiquer pour donner le bon exemple à notre jeunesse et pour qu'elle ne s'adonne pas aux plaisirs inutiles au pays. Personne ne m'avait préparé à la carrière politique et c'est le destin et les aléas de la monarchie élective qui a fait de moi un politicien. Alors, je n'aime pas spécialement la politique, mais puisque on me met dans cette voie, eh bien, je marche. Pour mon pays, je fais tout mon possible. Je fais une politique, cette politique nationale avec amour, avec passion pour mon pays, parce que j'aime passionnément mon pays.
Voilà le premier extrait de ces archives. Bonjour Séverine Yatar. C'est une archive qui date de 1966. On en réécoutera un autre passage de cet entretien de Norodom Sihanouk. Ouais, exactement, un autoportrait pour la radio nationale
assez
française.
Assez long, hein, d'ailleurs. Ouais. On a pris des extraits avec Séverine Cassard, mais voilà, et qui se situe donc juste avant la visite, pour nous donner un petit repère de Gaulle, par exemple, à Phnom Penh, voilà. Qui va être un grand moment du règne de Sihanouk, ou un des derniers grands moments. On en rediscutera avec vous, Alain Forest et Hugues Tertrais.
Alors, Alain Forest, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ainsi que Hugues Tertrais, pour commenter cette figure de Norodom Sihanouk. Que faut-il dire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout la vie de Norodom Sihanouk? Faut-il préciser qu'il descend d'une dynastie, qu'il arrive au pouvoir par la grâce des Français pendant la Seconde Guerre mondiale et que le pays devenant indépendant, il en devient son premier souverain?
Oui, tout à fait. Excusez-moi. Bon, c'est un héritier, Sihanouk, certainement. Un héritier, une des deux familles héritière en gros de ligne royale au Cambodge. Il était propulsé, son propre terme, en 1941 à la tête du pays. Enfin, la tête du pays, bon. Le Cambodge, c'est un protectorat français en 1941, dont le territoire a rapetissé, qui est loin, qui est tout sauf fort. Enfin, c'est un petit territoire et un petit territoire sous tutelle. Donc, il a été propulsé néanmoins à la tête de ce territoire. Et il a 18 ans à peine, il s'y attendait pas. Ce sont donc les Français, l'amiral de Coo, l'autorité française de l'époque.
Représentant Vichy.
Représentant l'Indochine collaboratrice du Japon, mm-hmm. C'est-à-dire loyal à Vichy, en effet. Et donc il va commencer sa carrière dans ce moment. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui, dans ses fonctions royales, dans une certaine mesure, a couvert plus de 50 ans. Mmh. Donc 30 premières années, en quelque sorte, jusqu'en 70, effectivement dans l'exercice de chef de l'État. Et puis 30 années après, alors il réussit à survivre, mais plus il survit, plus il est indispensable, jusqu'à la remise en selle de la monarchie au Cambodge en 91, 93, et à son décès en 2012.
Alain Forest, qu'est-ce qu'on dirait dans une notice brève de dictionnaire pour parler de Norodom Sihanouk, selon vous?
Oui, non, mais c'est tout à fait un héritier aussi, qui n'était pas prévu au départ. Celui qui avait été préparé, c'était le fils du souverain précédent, qui s'appelait Monivon, et qui s'appelait Monirette lui-même, et qui avait vraiment été préparé pour l'exercice royal. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, Sihanouk, c'est intéressant, il parle par la grâce de la monarchie élective. Mmh. parce qu'il y a un système au Cambodge qui veut, en effet, il y a toujours un conseil du trône à l'heure actuelle qui est censé aussi effectuer ce travail, qui choisit le souverain. Ce n'est pas forcément le premier-né de la dynastie. Et donc, il dit ça, mais en fait, derrière, c'était deux coups. Hein. Deux coups le dit, d'ailleurs, je crois, à la barre de l'Indochine. Il se croit, d'ailleurs, très malin parce que il choisit Sihanouk, qui est très jeune, donc on le pense malléable, mais il est en même temps l'arrière-petit-fils d'une des grandes branches de la famille royale, les Sisovates, et le petit-fils de l'autre grande branche, les Norodom. Alors,
donc il a une double légitimité.
Voilà, les Français sont tout fiers de cette combinaison. Simplement, faudra jamais oublier le fait que quelqu'un d'autre a été évincé quand même. Mais ça, par en dessous, ça va demeurer jusqu'à la fin de son existence.
Alors, on voit bien la complexité de cette Indochine française sous tutelle ou protégée par les Japonais, avec tout de même un gouvernement qui est allié avec celui de Vichy, qui répond aux demandes de Vichy. Donc, on voit la complexité de ce moment-là. Que se passe-t-il après la défaite de l'Axe, après la défaite des Japonais, après 1945, dans cette région, et comment, d'une certaine façon, ce jeune roi qu'on croit malléable va-t-il tenter de tirer les cartes et de faire en sorte de récupérer son pouvoir ou d'en avoir encore un peu plus ? Hugues Tertrais.
Ben écoutez, dans un premier temps, Sihanouk a déjà proclamé une fois l'indépendance du Cambodge devant les Japonais. Il n'est pas le seul à l'avoir fait dans la région. Donc il a mis le pied, dans une certaine mesure, dans cette procédure d'indépendance et dans ce mot d'ordre qui va dominer toute la période suivante. Il compose avec le retour des Français. Évidemment, de toute façon, il ne fait pas le poids de rien du tout. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment son caractère, mais qui fait avec une situation internationale extrêmement changeante. Je crois que ce qui est important très vite pour lui, c'est la dimension décolonisation. 1955, c'est Bandung. C'est la première conférence des pays indépendants d'Asie et d'Afrique. Il s'y rend, il a la trentaine, il est tout jeune. Et il fait la connaissance en particulier de Chou En-lai, qui est un grand bonhomme sur le plan étatique, beaucoup plus grand que lui. Et bon, donc il est assez fasciné par Chou En-lai à juste titre. Mais Bandung, ce sont des gens comme lui qui sont souvent plus gradés en quelque sorte, mais qui militent pour l'indépendance. Le mot indépendance sera pour lui extrêmement important.
Alain Forest.
Oui. On est passé très vite, là, de 45 à 55.
Ouais. Hein, d'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter une archive de 1946, ça nous permettra...
Alors, je rappelle ce que vient de dire Hugues Tertrais, n'est-ce pas ? Sihanouk avait proclamé l'indépendance à la demande des Japonais, du Cambodge. Il avait choisi un premier ministre qui était un anti-français notoire et qui va le rester, qui est aussi anticolonialiste, et qui s'appelle Son Gokhtan.
Et donc, en 1946, il s'adresse, dans une archive que vous avez retrouvée dans le fond de l'INA, Séverine Attard, à Thierry d'Argentlieu.
Voilà, les Français reviennent donc.
Voilà, il répond à Thierry d'Argentlieu, qui est venu faire une visite au Cambodge.
Il nous est particulièrement agréable d'accueillir dans cette salle du trône l'éminent représentant de la grande puissance amie, dont les liens avec notre pays seront bientôt séculaires. La paix, revenue dans un monde encore bouleversé, place maintenant la plupart des nations en face de problèmes différents, mais singulièrement graves. Et le Cambodge ne peut prétendre échapper à ces séquelles de la guerre mondiale. Nous avons cependant conscience de la situation privilégiée dans laquelle se trouve notre pays à ce point de vue. Et nous sommes persuadés que nos sujets seront parmi les premiers à bénéficier des bienfaits du retour à une vie normale et à voir heureusement réunies les conditions favorables à un nouvel essor de notre royaume dans tous les domaines. Pour la réalisation de ces conditions à laquelle notre gouvernement de son côté, apportera tous ses efforts. Nous faisons pleine confiance à la France.
Voilà donc une partie de l'allocution que prononce Norodom Sihanouk devant Thierry Dargenlieu, qui est le représentant du gouvernement français dans la région pendant cette période de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Il insiste sur le contexte tendu, évidemment, de sortie de guerre, on l'en comprend bien, mais aussi sur les liens qu'il y a entre le Cambodge et la France, dont il dit qu'ils sont bientôt séculaires. Il faut rappeler, effectivement, une terre-trait, que c'est 1863, la date de, à laquelle la France a posé le pied dans cette région.
Absolument.
Du monde.
Absolument, et à la demande de la monarchie cambodgienne. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas faux de dire que le Cambodge a empêché la France a empêché le Cambodge de sombrer complètement. Mmh. Et donc a permis au Cambodge de survivre comme État monarchique. Et donc, oui, les liens séculaires sont là, même si au début, ça n'a pas toujours été aussi rose qu'on veut bien le dire.
Ça n'est pas comme la conquête du Tonkin, ça n'est pas comme les combats de la France dans le Vietnam voisin. Enfin, ça, on n'est pas.
Non,
ça...
pas dans un premier temps, du moins. Dans les années 1880, où il y a de fortes tensions. Mais au départ, effectivement, les Français sont appelés par le roi Hang Dong, qui leur fait passer le message vers Singapour. Ils savent que les Français arrivent en Cochinchine. Manifestement, ils ont le statut d'une puissance. Et comme le Cambodge est alors. En tenaille entre le Vietnam d'un côté et le Siam de l'autre, et que pour des raisons de survie politique, ce roi ou cette famille royale amende ses territoires progressivement auprès de ses voisins, donc l'arrivée d'un tiers, en quelque sorte lointain, en l'occurrence la France, sauve la mise de la monarchie.
Donc 1946, lors de cette archive, dans cette déclaration au représentant français Thierry Dargenlieu, Alain Forest, on voit qu'il y a beaucoup de componction, façon de parler aussi qui fera le succès en France, en tous les cas, de Norodom Sihanouk. On voit chez lui cette grâce que l'on accorde aux grands souverains du monde, cet usage de la langue française si particulier, qui n'est pas pour rien dans la permanence des relations entre la France et le Cambodge, même indépendant plus tard.
Oui. Là, on a un discours assez typique de Norodom Sihanouk, c'est-à-dire un discours un peu ampoulé, gracieux, parfois avec humour. On n'a pas ce brin d'humour ici. L'heure est trop solennelle, mais il y a ça chez Sihanouk. Mais ceci dit, vous avez remarqué quand même qu'il y a une phrase où il affirme assez nettement qu'il y aura. Il espère que c'est l'indépendance qu'il vise. Hein, il espère que ça va venir le plus vite possible pour son pays. Et donc, on a déjà les deux personnages là. Mais je voudrais dire quand même une chose sur cette période 45-55 qui me paraît importante, c'est que le personnage de Sihanouk ne doit pas occulter dans notre vision après coup des choses, qu'il y a aussi des forces politiques qui commencent.
Des partis en particulier.
Des partis qui commencent.
Démocrates et libérales.
À devenir notamment des gens qui ont été formés au lycée Sisovat au Cambodge, c'est-à-dire des gens émanant du Cambodge même, qui forment une force politique maintenant assez importante. Et donc il va y avoir aussi une lutte pour le pouvoir sourde, dans lequel Sihanouk sera favorisé outrageusement, entre guillemets, je pourrais dire, par les Français, puis après même par les ambassadeurs français. Et il va y avoir ces gens qui vont se rallier finalement à Sihanouk, une fois qu'il aura abdiqué et constitué sa communauté socialiste Sangkum Rinium en 1955, qui vont se rallier à lui, mais qui seront toujours présents et qu'on va retrouver pratiquement jusqu'en 1990.
Vous insistez
et donc
beaucoup.
C'est surévalué de dire que voilà, Sihanouk est le père de l'indépendance. En fait, il n'est pas seul. Enfin, si l'historiographie a retenu.
Non, c'est différent. Il y avait d'autres forces très indépendantistes, donc ces nationalistes. Je parlais de Son Gokhtan tout à l'heure, qui va être pris par les Français, exilé après donc 1946, qui va revenir en 1951. Mais il va y avoir en effet des forces nationalistes et il y a vraiment une compétition entre Sihanouk et ses forces. À la fin, Sihanouk, il a tout son poids de personnage royal, il va en profiter aussi et il va jouer énormément sur les relations extérieures. Tout de suite, il va se donner un rôle extérieur. En 1952-53, il va en Amérique, il va aussi directement en France. Donc il va jouer là-dessus. Il va y avoir une certaine supériorité, mais il faut savoir aussi que les autorités coloniales ou issues de la colonisation, les ambassadeurs, etc., vont déplorer à chaque fois Sihanouk pour ses excès, etc. Mais à chaque fois, on le soutiendra.
Hugues Tartrayer.
Oui, je dirais quand même qu'en 1955, pour y revenir, Sihanouk a pris une très forte option sur l'idée d'indépendance.
Tout à fait.
Puisqu'il a abdiqué en faveur de son propre père. Il était roi, il n'est plus roi, c'est son père Souramarit qui prend cette charge. Il est le chef de l'État, il a les mains libres, il peut faire quelque chose. Il crée justement le Sangkum, c'est-à-dire ce rassemblement politique un peu à la mode des années 50-60 dans le tiers-monde. C'est pas trop démocratique, ça se veut consensuel, et ça fonctionne, en gros. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il est celui qui conduit quand même l'indépendance.
Alors, là, on est tout à fait d'accord sur la date, 1955, c'est une date clé, c'est un coup de génie d'ailleurs de Sihanouk.
Et les accords de Genève aussi en 1954, parce que ça a un rôle.
Oui, sauf que, disons que le Cambodge était, sans être marginal, n'était pas au centre du drame.
Mais il était présent tout de même. À Genève entre les forces du Viet Minh et puis les forces françaises.
Tout à fait, non seulement présent, mais ce sont des délégués cambodgiens qui ont fait patiner la conférence au dernier moment, empêchant la signature pour des raisons quelconques que je n'ai plus en tête. À la faveur de Genève, il y a eu une autre conférence. On dit toujours que le Cambodge est devenu indépendant en 53. Une autre conférence en décembre 54, qui est une conférence financière franco-indochinoise. Franco était associé, puisque les États en question étaient devenus dits associés, qui donne leur indépendance financière au Vietnam, au Laos et au Cambodge, créant les banques nationales, créant les monnaies nationales, etc.
Alain Forest, dans cette période, on peut dire, de 54-55, il y a quelque chose qui se transforme, pourrait-on dire, dans la personnalité de Sihanouk, qu'il décide, comme vient de le dire Hugues Tartrayer, d'abdiquer au profit de son père, de devenir donc une personnalité politique comme les autres, alors qu'il est un héritier d'une famille royale. Et il jouera toujours dans l'ambiguïté, c'est comme ça qu'on l'a souvent vu, sur cette double, ce double héritage, un héritage d'un côté monarchique et de l'autre côté un héritage prétendument démocratique, puisque au bout du compte, il se fait élire avec la très grande, très large majorité des voix, Alain Forest.
Oui, c'est ce qui se profilait d'abord à la fin de la guerre, c'était un régime, 4e République ou comme vous voulez, qui était un régime de monarchie constitutionnelle. Et évidemment, ça laissait une place entière à ces partis qu'il faut bien le dire aussi étaient très divisés entre eux, un peu incompétents, se gênant les uns les autres et qui passaient, c'était comme la 4e République, ça passait très vite les premiers ministres et donc Sihanouk s'est débarrassé de ça. Et s'est débarrassé du caractère constitutionnel de la monarchie. Il a abdiqué, donc ça c'est son père maintenant, qui devient le roi. Et lui, il se lance, comme on dit, dans l'arène politique. D'ailleurs, c'est sur son terme. Je me suis lancé dans l'arène politique, et toujours à son corps défendant. D'ailleurs, il y a toujours ce discours chez Sihanouk. C'est le pays qui
m'a... C'est dans l'amicale pression de mes amis, j'étais obligé.
C'est pour le bien de mon pays.
Voilà. Et on voit bien comment il réussit, puisque dans les élections de 1955, seulement 12% des voix vont au Parti démocrate, qui était pourtant un parti très important.
Oui, un Parti démocrate qui avant avait récolté toujours 80 ou 90% des voix.
Et 4% à l'équivalent du Parti communiste aussi, c'est-à-dire relativement peu de voix. En 1956, vous avez trouvé une nouvelle archive
qui nous parle aussi de la politique de Sihanouk, de neutralité, qu'il va longtemps revendiquer, mais avec cette conscience que, évidemment, il y a le Vietnam et qu'il y a deux Vietnam. Voilà. Et donc, c'est en janvier 1956.
À propos de cet état du Vietnam, je dois vous signaler que le Cambodge, ayant déclaré qu'il entendait rester neutre, ne peut pas encore inaugurer de relations officielles d'ordre diplomatique avec le Vietnam, parce qu'il y a deux Vietnam, le Vietnam de M. Ho Chi Minh et le Vietnam de M. Ngo Dinh Diem. Nous savons que l'accord de Genève prévoit des élections générales au mois de juillet 1956, c'est-à-dire cette année. ces élections devant aboutir à l'unification tant étatique, géographique, politique, n'est-ce pas, du Vietnam. La question de savoir est de savoir si ces élections pourront avoir lieu. En attendant, le Cambodge est prêt à accepter d'avoir des relations non pas diplomatiques, puisque l'unification du Vietnam n'est pas chose faite encore, mais nous concevons des relations politiques. Je crois qu'il y aura bientôt entre le Sud-Vietnam et nous échange de représentants politiques qui auraient rang de ministre plénipotentiaire et prérogative diplomatique, mais qui ne s'appellerait pas représentant diplomatique.
Oui, c'est compliqué pour le petit Cambodge, juste à côté de ces deux pays qui n'en font qu'un, mais qui sont séparés en deux par la guerre d'Indochine. C'est compliqué de se débrouiller. Christopher Gosha nous racontait lundi combien cette question de la fédération indochinoise avait pesé sur les élites cambodgiennes des années 30. Cette idée qu'au bout du compte, ils seraient plus ou moins sous la tutelle ou sous la coupe des intellectuels annamites a toujours gêné les Cambodgiens comme les Laotiens. Là, on sent bien qu'il y a ce voisinage est un peu prépondérant pour un jeune roi comme Sihanouk, en l'occurrence Dulkertrai.
Ça a toujours été compliqué pour le Cambodge. Et dans cette période-là, je crois qu'après 55, après 54 Genève, après 54 Bandung, là on est en 56, c'est votre archive.
Début 56,
la situation est à considérer à plusieurs échelles. À l'échelle locale, le Cambodge a des frontières avec les deux Vietnam. Donc, il doit négocier et définir ses frontières, d'autant plus que ce qu'on appelait la piste chimine, c'est-à-dire les voies de raccordement, si j'ose dire, du nord au sud, passent par chez lui. Et donc, c'est un secret pour personne. Et ça fera partie de sa politique, d'ailleurs, et de sa discrétion. Donc, ça, c'est vrai au niveau local. Au niveau plus international, après Bandung, il est confronté à l'Est-Ouest, en quelque sorte, le communisme derrière Hanoï, Washington derrière Saigon. Donc que faire? D'où la neutralité, effectivement. Dans la foulée de Bandung, le Cambodge fait partie des pays qui proclament ou qui essaient de s'initier à la neutralité. Alors neutralité, neutralisme, on peut jouer sur les mots. Disons que sur la carte de l'Asie du Sud-Est à l'époque, il y a l'Indonésie qui, dans ce cas, il y a la Birmanie qui tente d'être dans ce cas, il y a le Laos qui tente de faire pareil, il y a le Cambodge. Bon, ça va durer plus ou moins longtemps pour chacun d'entre eux. Pour le Cambodge, ça va être le grand moment des années 60, comme le neutralisme appuyé sur De Gaulle, etc. etc.
Et en même temps, c'est à ce moment-là, Dulkertrai, que le Cambodge refuse aussi de rentrer dans l'OTAD, qui est quand même sous leadership américain. Donc, comment interpréter justement un neutralisme, une neutralité?
La vérité, je ne suis pas très sûr qu'on l'ait invité à rentrer dans l'OTAD. C'est-à-dire que l'OTAD, c'est donc le traité de Manille, pacte de Manille, qui fait suite en septembre 54 à la conférence de Genève, que les Américains n'avaient pas voulu signer, donc ils ont organisé une contre-conférence, c'est leur style, d'une certaine manière. Et donc, il s'agit de faire une organisation anticommuniste, une organisation de containment, avec des pays sur lesquels ils ont vraiment la main, les Philippines, la Thaïlande, le Pakistan, qui est pas franchement en Asie du Sud-Est, mais qui est pas loin, et avec une barre, une frontière, pour limiter l'influence de la Chine au Sud.
Et donc, ça veut dire que les États-Unis, vous dites... Ne prennent pas le Cambodge comme un
l'ensemble
potentiel.
L'ensemble de l'Indochine, selon le statut de la Conférence de Genève, est en dehors de tout dispositif de traité, de tout dispositif militaire. Il n'a pas à rentrer dans une alliance ou une autre. En principe, c'est dans les textes.
Alain Forest.
Oui, il y a aussi un autre partenaire dont il faut tenir compte et que Hugues vient de mentionner, c'est la Thaïlande. Thaïlande qui, à l'époque, est aux mains d'un maréchal qui s'appelle Pibul Songkram et qui est aussi très pro-américain. Donc, il n'y a pas simplement le Vietnam d'un côté, du coup, il est coincé entre des puissances, Vietnam du Sud et Thaïlande, qui font pression sur lui et c'est aussi un des moteurs de sa neutralité.
Un des moteurs de Norodom Sihanouk, c'est de dire, tout compte fait, non seulement le pays est neutre et ne veut pas s'engager dans les conflits locaux, ce qui le ferait disparaître, c'est une partie de sa politique. Une autre partie de sa politique, au point de vue intérieur, c'est le développement. Il insiste beaucoup sur cette question du développement économique. Ces années, mettons, entre 55 et la fin du règne de Sihanouk en 1970, sont des années de fort développement économique pour le Cambodge, de rattrapage économique pour le Cambodge ? Ou est-ce que c'est un discours d'abord ?
Non, ce sont...
Alain Forest d'abord.
On parlait avant l'émission, on parlait des points forts de Sihanouk et on disait qu'il n'était pas si girouette que ça. Mm-hmm. Il y a une ligne très ferme, marquée, hein, c'est celle de la modernisation. On veut que notre pays soit moderne. C'est un des leaders, c'est comme la plupart des leaders du tiers-monde de l'époque. Hein. On veut la modernisation, ce qui s'accompagne notamment d'une alphabétisation, qu'on va lui reprocher parfois, parce que on va former des jeunes sans penser aux débouchés, qui va aussi donc se traduire au fil des ans par la mise en place d'une infrastructure. Là encore, on va lui reprocher parce que souvent les infrastructures sont un peu bâclées ou ne
correspondent pas à des besoins réels.
Oui, ou ne sont pas suivies. Une infirmerie, ben c'est bien beau de l'ouvrir, mais il faut encore la faire marcher après. Mais donc ça, c'est un point fort, hein, de Sihanouk. Ce que je voulais dire aussi, c'est que simplement sur l'aide américaine, et j'arrête là, il reçoit quand même de l'aide américaine. Oui. Il y a une aide financière, il va y avoir une aide militaire américaine.
Il reçoit les aides d'un peu partout, d'ailleurs. Il reçoit des aides américaines, françaises, Pékin aussi, je crois.
C'est important de signaler parce que je crois que la fin du problème de Sihanouk en 63, quand il va refuser l'aide américaine, ça sera un tournant.
Finalement, c'est ça la neutralité, c'est peut-être d'accepter toutes les aides.
Oui, c'est ça, une carte très...
Oui, à propos de développement, bon, c'est difficile de parler de développement économique pour le Cambodge dans les années 60, quoique il y ait quand même un certain nombre d'initiatives, en particulier celle soutenue par la France d'avoir un port en eau profonde au Cambodge même, à Sihanoukville. Auparavant, le Cambodge était lié par le Mékong à la fenêtre maritime vietnamienne, donc l'existence de ce port permet une autonomie. Mais moi, je voudrais attester, pour avoir été au Cambodge en 67, que le pays donnait une impression de très grande prospérité. C'est beaucoup dire, mais dans la région, j'avais pas été au Vietnam, qui était encore plus compliqué, mais je connaissais la Thaïlande, j'avais été au Laos, c'était d'un brouillard absolu, c'était d'un désordre absolu. Le Cambodge, c'était un oasis de paix, voire de prospérité, vraiment. Et c'était Sihanouk, c'était le Cambodge de Sihanouk, c'était pas depuis toujours, mais c'était à ce moment-là. Et c'est ce Cambodge-là qui va sombrer à partir de 70.
Voilà, et alors il faut dire que la guerre du Vietnam commence à s'installer de façon sérieuse. Au départ, ce sont des accrochages, et puis ensuite, ça devient une véritable guerre. Et en 1966, vous l'avez déjà mentionné, très bien, la France fait un geste envers justement le petit roi, envers Norodom Sihanouk, en envoyant son grand homme d'État, à savoir Charles de Gaulle, sur place, et à l'occasion...
Qu'admire beaucoup Sihanouk.
Voilà, et qu'à l'occasion, une radio qui était la nôtre, c'est-à-dire une radio qui n'était pas du tout aux ordres du pouvoir à l'époque, eh bien, donne un grand moment, avec un grand entretien avec Norodom Sihanouk. Vous en avez extrait une partie, en l'occurrence.
Où il nous parle de son rapport à la politique, la manière dont il conçoit son statut, mais où il parle aussi de ses loisirs, de ses activités annexes, et notamment le cinéma.
Vous savez, au Cambodge, un chef d'État, un ministre ou n'importe quel autre citoyen peuvent, à côté de son métier principal, exercer d'autres métiers. Alors, j'ai des ministres qui sont planteurs en même temps ou commerçants. Et vous avez ici un chef d'État qui est en même temps journaliste, artiste, parce qu'il compose, il écrit des pièces, il les interprète même pour des œuvres sociales. Il est capitaine d'équipe sportive, équipe de vétérans, bien entendu, je ne suis plus jeune, j'ai 45 ans. Bientôt, j'aurai 45 ans, dans quelques mois. Et je fais d'autres choses qui vous paraissent, n'est-ce pas, extraordinaires pour un chef d'État. Mais le Cambodge manque de cadres, manque de spécialistes. Alors chacun fait plusieurs métiers pour suppléer à ce manque de cadres. Et c'est ainsi qu'on croit que j'ai une conception particulière du métier de chef d'État. Non, j'exerce le métier de chef d'État comme les autres exercent leur métier de chef d'État dans les autres États, dans les autres pays. Mais j'exerce à côté de ce métier d'autres métiers, c'est tout, je crois.
On dit que vous travaillez beaucoup, on dit même que vous travaillez parfois jusqu'à 15 et 16 heures par jour. Comment faites-vous pour garder le sourire ?
Je crois que Johnson travaille beaucoup, le général de Gaulle travaille beaucoup, Kennedy travaillait beaucoup. Donc ce n'est pas une chose extraordinaire à mon avis. Et on veut bien me complimenter pour ma solide santé, pour ma résistance physique. Je crois qu'il faudrait complimenter plutôt le ciel qui m'a fait comme ça, n'est-ce pas ? Je n'y suis pour rien.
Il vous arrive tout de même de vous reposer, Monseigneur. De quelle manière occupez-vous vos heures ou vos moments de détente ?
Voilà, n'est-ce pas ? Avant, quand j'étais roi et quand je n'avais pas encore une conception nette de mon devoir de chef d'État, mon devoir de guide de la nation, et c'était aussi un défaut de jeunesse commun à tous les jeunes. Mes moments de détente consistaient en dancing parties, en jazz parties, etc., n'est-ce pas ? Ou en partie, même en partie de poker ou de Monopoly. Et depuis que j'ai décidé d'abandonner la couronne pour devenir n'est-ce pas, un chef d'État élu par le peuple, j'ai une meilleure conscience de mon devoir. Et comme le peuple est très exigeant en ce qui concerne la vie privée, alors je me suis forgé une nouvelle vie privée. Et il y a en somme deux Sihanouk. Le nouveau Sihanouk, c'est-à-dire le vieux, il est différent du jeune, en ce sens que ses moments de loisir, il les passe utilement au pays. Même quand je fais un film, j'aime à faire un film, c'est mon plaisir, mais c'est en même temps une utilité pour le pays, puisque c'est une contribution au développement, au relèvement du standing du cinéma cambodgien, et également ça rapporte de l'argent pour les œuvres sociales.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et dans une semaine consacrée à la péninsule indochinoise, à son histoire et en particulier au Cambodge, nous vous dressons le portrait depuis le début de cette heure, le portrait de Norodom Sihanouk. On l'a appelé le prince changeant. Une de nos auditrices sur Twitter vient de nous parler de l'ondoyant prince. Et vous n'êtes pas d'accord avec ni l'un ni l'autre d'ailleurs avec ce qualificatif, Hugues Tertrais et Alain Forest. Il n'est pas si ondoyant que cela, justement.
Pas tant que ça. Moi, je pense qu'il est... Il a traversé des circonstances extrêmement changeantes avec lesquelles il s'est accommodé avec...
Rappelons-le, la Seconde Guerre mondiale, l'indépendance de son pays, la guerre du Vietnam voisin, etc.
Entre-temps, la décolonisation, le conflit sino-soviétique, la Chine post-Mao, etc. etc. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et à travers toute cette période, y compris l'épisode Le Monde ne convient pas, l'épisode Khmer Rouge au Cambodge, à travers tous ces moments, Sihanouk, en fait, tel que je le comprends, a été fidèle à un certain nombre de principes très simples. Et c'est en cela que je ne le pense pas changeant. Lesquels ? D'abord, l'indépendance. Il parle lui-même, dans un de ses bouquins, il dit lui-même qu'on ne peut pas comprendre les pays du tiers-monde, et en particulier le Cambodge, si on n'a pas en tête la magie de l'indépendance. La magie de l'indépendance, la magie du mot, qui est mobilisatrice et qui est pour tout le monde valable.
Indépendance tcha-tcha, comme on disait dans le Congo de Patrice Lumumba.
Peut-être. D'autre part, deuxième élément, je crois, ce que lui appelle l'intégrité territoriale, ce qui, pour le Cambodge, n'est pas rien, puisque le Cambodge a failli disparaître en termes de territoire, et même en 1941, quand il arrive à la magistrature suprême, si elle peut exister dans ces termes-là au Cambodge, le Cambodge vient d'être amputé au profit de la Thaïlande d'une partie de son territoire que la France avait donné au Cambodge auparavant. Bref, il y avait un vrai problème d'intégrité territoriale, et pour lui, à la limite, l'intégrité territoriale est plus importante que l'indépendance. Mais les deux vont ensemble. À partir de là, bon, il est pour le Cambodge, et le Cambodge, c'est ça. Donc, toute force dominante et importante au Cambodge, il la respecte. Il est loyal avec.
Mm-hmm. Alain Forest ?
Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Hugues Tertrais. J'y ajouterai quand même aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, passion pour la modernisation du pays. Où je serais peut-être un peu plus nuancé, c'est qu'il y a en effet ces grandes lignes et il y a la façon de faire. Et de temps en temps, la tactique elle-même est assez surprenante, par contre.
C'est-à-dire c'est qu'il a. Qu'on puisse dire.
Je prends la neutralité. Oui. Le thème de la neutralité. Pour lui, assez souvent, la neutralité, c'est même par rapport à la diversité politique. Parce que, attention, tout à l'heure, j'ai mentionné ces partis. Ils sont là, par en dessous. Ils continuent. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche qui se combattent à l'intérieur du gouvernement de Sihanouk, des gouvernements.
Mais qui est théoriquement une sorte de gouvernement, entre guillemets, d'union nationale, pourrait-on
dire.
Oui,
mais il y a un certain nombre d'instances qui donnent cette illusion. Mais les personnalités sont là.
Et puis, pendant ce temps-là, il y a tout de même, dans une opposition au cœur de la jungle, il y a aussi le Parti communiste et le futur, enfin, les Khmer Rouges, qui sont déjà
1963. Mais ce que je voulais dire, c'est justement, par rapport à ces gens-là, ou par rapport à la neutralité, il a une conception, je cogne à droite, brutalement, et puis, 6 mois plus tard,
je cogne à gauche.
Ils sont rangés, allez, hop, je cogne à gauche. Et c'est pareil avec un peu les alliés. De temps en temps, on va critiquer les Américains très fort, et puis on va se rapprocher d'eux pour taper sur les Nord-Vietnamiens et les Vietnamiens. Donc il y a une conception, si vous voulez, il y a une conception tactique qui est quand même assez surprenante.
Qui est déroutante, effectivement. Et on peut dire aussi que ces opposants qui sont dans la jungle, ceux qui vont devenir donc les Khmer Rouges, sont des personnalités qui ont en commun aussi une haine de l'institution monarchique, c'est ce que vous expliquez, Alain Forest. Oui. Donc cette institution monarchique qu'il incarne, même s'il est effectivement prince démocrate, pourrait-on dire, ou prince élu, elle est constamment menacée par une tendance avec laquelle il finira par s'allier au bout du compte.
Et il faut savoir aussi que cette opposition, notamment ceux qui se réfugient dans la forêt à partir de 1963, 1961, 62, 63, il y a eu quand même une épuration très forte de tous les éléments considérés comme communistes. Alors c'est très bizarre en effet, parce que il promeut certains éléments de gauche, Tiao Seng, Monsieur Khieu Sampan, etc. Et à la fois, en dessous, il tape et il réprime, et il chasse, il fait pourchasser les opposants, les mêmes opposants de gauche.
Et là, c'est une période justement un peu de répression au moment où
il y a des alternances dans les années 66-67 de répression, et puis on se rapproche. Après 63, on va se rapprocher des gens de gauche, donc on va les intégrer, on va en intégrer certains dans le gouvernement, jusqu'en 1960. 7 à peu près.
Et lui, en 66, il se met un petit peu en retrait ou pas là,
oui, en 66, il y a une date importante, mais peut-être...
Si Anouk.
Je crois que le caractère anti-monarchique de l'opposition Khmer Rouge est assez relative. En 63, il y a effectivement, je crois que Salat Sar, le futur Pol Pot, prend le maquis à ce moment-là. Oui. Enfin, rentre dans la clandestinité, qu'est-ce que ça veut dire prendre le maquis, on ne sait trop rien. Par contre, d'autres, comme Khieu Sampan, continuent à jouer Sihanouk, si j'ose dire. Il est secrétaire d'État du gouvernement à Phnom Penh. Donc, c'est pas un militant anti-monarchiste du tout. Ils sont plusieurs de la future direction Khmer Rouge à être passés par le gouvernement, comme effectivement figure de gauche, d'une certaine manière, passés par le gouvernement de Phnom Penh. Donc le mouvement se radicalise dans les années 60, dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient des années aussi de relative prospérité. Effectivement, 67 est un tournant, semble-t-il. C'est d'ailleurs le moment où Sihanouk a inventé le mot Khmer Rouge pour brocarder cette opposition. Mmh. Et en 67, effectivement, de nouveaux candidats à la clandestinité disparaissent de Phnom Penh, Khieu Sampan en particulier. Donc là, il y a vraiment une radicalisation.
Et on peut dire que c'est aussi ce moment-là qui va faire de lui peut-être un personnage shakespearien, qui va inspirer par exemple Hélène Tixous et Ariane Nouchkine pour l'histoire de Norodom Sihanouk, parce que effectivement, dans ses allers-retours, dans ses jeux, dans le fait que Kyo-Sampan appartient à sa cour et puis ensuite le quitte pour pouvoir devenir donc le leader, un des leaders des Khmers Rouges, eh bien il y a là des tensions qui sont des tensions dramatiques et dramaturgiques, pourrait-on dire, qui sont propres à raconter ce qu'est une histoire du pouvoir, comme le faisait Shakespeare, en l'occurrence, Uther Trey.
J'ai 3000 ans, lui fait dire, ouais, effectivement, Hélène Tixous. Ouais. Cela dit, bon, la véridique histoire de, etc.
De Norodom Sihanouk.
De Norodom Sihanouk, c'est le début des années 80. Donc, ouais, c'est, y a aussi pas mal de reconstruction, évidemment, mais c'est de cette histoire-là dont elle parle, en effet. Ouais.
Alors, vous avez trouvé une autre archive qui nous explique que plus la guerre du Vietnam avance, eh bien, plus le Cambodge se trouve empêtré.
Et se complexifie par les relations, voilà, entre le Cambodge des Américains et le Cambodge le bloc communiste, devient de plus en plus complexe. Et donc, c'est une archive, effectivement, de l'automne 1968, où là, Sihanouk demande le maintien des forces américaines sur le territoire.
Mon idée, il y a 6 ou 7 ans, était qu'une zone tampon comprenant le Cambodge et quelques autres nations décidées à rester indépendantes des deux blocs pourrait se constituer dans notre région, de manière à neutraliser les pressions communistes et américaines. L'évolution des événements est telle que cette suggestion apparaît aujourd'hui bien dépassée. Force m'est donc de souhaiter maintenant, pour la survie d'un Cambodge neutre, bouddhiste et indépendant, que les influences communistes sino-vietnamiennes et du monde libre États-Unis puissent, après la guerre du Vietnam, se contrebalancer dans notre Asie du Sud-Est. C'est pourquoi, sans joie, mais avec réalisme, j'avoue que je verrai d'un bon œil le maintien de la présence des États-Unis d'Amérique et même de leur base dans les pays asiatiques non communistes qui les accepteraient. Ainsi, le Cambodge neutre conserverait-il une marge de manœuvre suffisante pour équilibrer les deux influences ou pressions adverses et assurer ainsi, concurremment avec son propre travail d'équipement et de développement, sa survie en tant que nation indépendante.
Voilà, et donc le plaidoyer pour le Cambodge neutre en 1968 de Norodom Sihanouk, avec cette phrase formidable: sans joie, j'avoue que je verrai d'un bon œil le maintien des États-Unis et de ses bases dans le pays. On voit bien effectivement cette capacité à dire une chose et l'autre en même temps, les deux choses ensemble, pourrait-on dire, Alain Forest.
Oui, un petit point d'histoire quand même. En 1963, Sihanouk a récusé l'aide américaine, militaire et économique. Et c'est là qu'il lui aussi est entré dans cette idée, le Cambodge cède soi-même, etc., où on le voit d'ailleurs sur les chantiers piocher lui-même et tout ça. Et 66, c'est une date, après cela, est une date importante, parce que dans le milieu politique, c'est la droite qui s'impose, alors que Sihanouk avait promu les gens de gauche. Et c'est donc la droite qui s'impose autour du Premier ministre Lon Nol. Et donc il y a tout un débat avec Lon Nol et Sirik Matak. Et il y a tout un débat. Et en 65, j'ai oublié de le dire aussi, rupture des relations diplomatiques avec l'Amérique. 63, refus de l'aide. 65, rupture des relations diplomatiques. Mais 66, gouvernement de droite qui est pour les relations avec les Américains.
Et 68, sans joie, j'avoue que je verrai d'un bon œil le maintien des bases américaines.
là encore, on en revient à cette image de la neutralité. Il faut renouer avec les Américains, d'abord pour retrouver de l'aide et pour rétablir l'équilibre par rapport aux Vietnamiens. Aux
Vietnamiens. Oui. Parce que les Américains ont bombardé aussi en secrètement, je crois, le Cambodge.
On
à cause justement
peut-être.
De... Oui. C'est à ce moment-là, en tous
oui,
les cas,
dans,
à
la forêt. C'est, ce sont les années, effectivement, où la piste Ho Chi Minh est bombardée, où effectivement les Américains déversent des tonnes de napalm dans la région, etc. Parce que on sait que c'est par là que les forces nord-vietnamiennes gagne le sud Vietnam et en particulier la région de Saïgon et le delta du Mékong pour pouvoir provoquer des attentats, des attaques, etc. etc.
Oui, que le QG de toute façon Vietcong, comme on disait, du Front National de Libération Sud, c'était la zone frontière. Et donc l'opération Menu qui est effectivement, qui a couvert ces bombardements, c'était des bombardements de la zone frontalière. Donc c'était, c'est pas des bombardements du Cambodge, si, juridiquement parlant,
bien sûr.
Mais c'est la zone frontalière. Je dirais qu'en 68, pour y revenir, il y a forcément un petit peu d'affolement chez Sihanouk parce que la situation se dégrade, se précipite, si je puis dire. Il a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Pour autant, il n'est pas prêt à y revenir. Je vous parlais de 67, je peux vous dire qu'il y avait, je suppose qu'en 68, il y était toujours. Sur une des grandes places de Phnom Penh, il y avait un avion américain U-2, j'ai plus peut-être truc en tête. Pas B-52, un petit, qui était exposé. Il était exposé après avoir été abattu. Par les Cambodgiens. Donc c'était quand même le signe de quelque chose. Mais en même temps, bon, il joue un petit peu... Il tient compte d'un rapport de force auquel il ne peut pas, échapper complètement.
Et dans ce rapport de force, il y a évidemment le soutien difficile, qui n'est pas toujours permanent, de Pékin aussi, ou la recherche du soutien de Pékin, aller voir aussi à Moscou, puisqu'on n'a plus forcément le soutien des États-Unis ou qu'on ne le veut plus. Enfin, il y a un jeu très subtil, très compliqué, très complexe à comprendre, en l'occurrence.
C'est là que ça devient de plus en plus difficile pour lui, comme je viens de le dire.
Et aux observateurs, pour comprendre.
C'est que il y a vraiment, alors c'est pas simplement une zone frontalière, alors, je suis désolé, j'ai vécu 2 ans à la frontière quand même du Cambodge, avec des bombardements à 20 km. Et donc il y avait vraiment des implantations importantes vietnamiennes, notamment après l'échec de la bataille du Tet. On oublie cette grande bataille au Vietnam et il y a eu un repli du côté de la frontière, notamment dans la région des plantations, mais un peu au sud aussi, dans la région de la frontière du côté de la plaine des Joncs. Et donc là, il y avait non seulement ça, mais Sihanouk annonce publiquement, et il l'a dit, qu'il va aider. Donc le port de Sihanoukville va servir pour le transit des médicaments et de l'aide théoriquement humanitaire donc aux Nord-Vietnamiens et aux Vietcong. Alors tout ça, ça aussi, nous sommes là en 68. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, donc j'habitais le long de la route. Toutes les nuits, il y avait
des camions
qui passaient, des roulements de camions, etc. Et Sihanouk niait ça. Et ça a été le grand problème, c'est qu'il ne savait pas comment sortir de là, et il est sous la pression des gens de droite, et donc ça va mal se terminer.
Et ça va conduire à 1970. Qu'est-ce qui se passe en 1970 pour lui, Tertrais ?
Il se passe en 1970 qu'il est renversé, en quelque sorte, juridiquement parlant, par le pouvoir, par son premier ministre,
par Lon Nol
et quelques autres. Il n'est pas présent à ce moment-là, donc il y a un moment de confusion. Il est en France. Il repart, comme il a une maison sur la Côte d'Azur, donc ça c'est aussi à nous aussi. Et donc il repart en direction du Cambodge. Il passe par Moscou, par Pékin, avant de revenir au Cambodge. Sauf que entre temps, il apprend qu'il est renversé. Il l'apprend d'après ce qu'on comprend de lui-même, de la bouche de Kosygin, qu'il ramène à l'aéroport de Moscou. Donc c'est très agréable. Et ensuite, donc. Il aurait eu le choix éventuellement de rester à Moscou, mais enfin les Soviétiques avaient jamais été très 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 courtois à son égard ou très cordial à son égard, alors qu'au contraire
à Pékin
il a de sinon de vrais amis, du moins de quoi faire. Et donc, en effet, il va s'arrêter à Pékin et il va y constituer se rapprocher des Khmers rouges et y constituer donc un pouvoir en exil.
Et un pouvoir en exil qui va tout de même continuer à jouer son rôle. Il va tenter de manipuler ou de jouer avec les forces politiques locales et se rapprocher des Khmers rouges aussi à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il se rapproche des Khmers rouges.
Totalement. Il organise le GROUM, le gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, qui est un gouvernement effectivement qui comprend des éléments Khmers rouges. Très concrètement, les Khmers rouges vont être importants sur le terrain. Lui va rester important à Pékin. Et donc, il va y avoir une coupure progressive qui va se faire entre ce pouvoir officiel du GROUM à Pékin et ce pouvoir réel des Khmers rouges sur place, qui fait que très rapidement, il va perdre pied. Mais jusqu'au dernier moment, et je voudrais vous en dire un tout petit mot dans un instant.
Très vite.
Jusqu'au dernier moment, il garde sa loyauté à l'égard des Khmers rouges. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'épisode qu'on n'a pas indiqué de Sihanouk voulant récupérer ses films à Phnom Penh. Donc, il fait adresser par l'ambassade de France à l'ambassade américaine. C'est l'ambassadeur Dean qui est à Phnom Penh, qui est un grand ambassadeur américain, qui n'est surtout pas un va-t-en-guerre et qui donc va rassembler ses films, les lui faire parvenir. Et en même temps, c'est un canal pour les États-Unis pour discuter. Les États-Unis se proposent d'intervenir au Cambodge pour faire revenir Sihanouk. Il y a même une date, c'est le 12 avril.
Le 75,
c'est-à-dire à la fin de la guerre. Ouais. Et donc, les Khmers rouges prendront Phnom Penh le 17 avril. Mmh. Le 12 avril est programmé, effectivement, est proposé par les Américains une installation. Dean, d'ailleurs, quitte l'ambassade et le Cambodge avec son drapeau sous le bras le même jour. Et je voudrais juste vous lire le post-scriptum de la réponse que Sihanouk fait à la proposition américaine
de le remettre sur le trône.
De le remettre sur le trône, d'une proposition, donc il la refuse. Il n'est pas en mesure d'accepter, dit-il, ça servit au même. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un post-scriptum. Je vous lis le post-scriptum. Norodom est un homme d'honneur. Il n'a jamais trahi sa patrie ou ses amis ou associés. Dans la résistance, Norodom Sihanouk a noué alliance avec les Khmers rouges. Il ne trahira jamais les Khmers rouges, ses alliés. Pékin, 12 avril 1975, signé Sihanouk.
Il ne peut pas faire autrement, puisque sur le terrain, ce sont les Khmers rouges qui dominent maintenant et qui ont illuminé les Sihanoukistes. On dira quand même, il faut quand même mentionner que ce soutien et cette union avec les Khmers rouges a beaucoup profité à ces derniers du point de vue propagande, n'est-ce pas? La présence de Sihanouk à leur côté a fait qu'on a été quand même illusionné sur la nature du futur régime Khmer rouge.
Internationalement et localement.
Merci beaucoup à tous les deux. On n'a pas pu aller jusqu'au terme de la vie de Sihanouk, dont on a compris qu'elle était pleine de rebondissements et de surprises, mais également avec ce que vous avez mentionné tous les deux, une ligne directrice ou plusieurs lignes directrices assez fortes de cette personnalité importante du sud-est asiatique de la deuxième moitié du XXe siècle. Merci à tous les deux. Alain Forest, vous avez plusieurs livres qu'on peut mentionner. L'histoire religieuse du Cambodge et puis également le Cambodge contemporain. On citera dès demain d'ailleurs le livre que vous avez dirigé, Hugues Tertrais, sur Angkor, puisque demain nous nous retrouvons, Céline Inter et donc dans la Fabrique de l'Histoire, pour évoquer l'histoire d'Angkor.
Et la création de l'EFEU, donc l'école française d'Extrême-Orient au début du XXe siècle.
Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier, Aurélie Marcet, Alexandre Dang était avec nous à la technique et à la réalisation. Séverine Cassard, à demain donc pour évoquer encore la création de l'école française d'Extrême-Orient et terminer notre semaine consacrée à cette péninsule indochinoise, mais également plus particulièrement à la question de l'histoire du Cambodge.